Europe 1, sans rendez-vous. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Bonjour et bienvenue dans Sans Rendez-vous, votre émission santé et bien-être du lundi au vendredi en direct de 15h à 16h. Alors tous les jours, pour vous faire du bien, pour vous éclairer, j'ai la chance d'avoir le docteur d'Europe 1 pour vous servir dans ce studio, c'est le docteur Jimmy Mohamed. Bonjour Jimmy.
Bonjour Mélanie, bonjour à toutes et à tous. Quelle présentation.
Vous avez vu, je vous fais le tapis rouge.
Hein. Ah ouais, tous les jours comme ça, moi ça me va.
Ouais, bon, je ne peux pas rêver non plus.
Non, okay, d'accord, bon.
Allez, au sommaire aujourd'hui, notre grand dossier du jour sera consacré à la santé dans votre bouche, à la santé de vos dents notamment. On va reprendre les basiques, hein, notamment comment se laver les dents, évidemment, quelle brosse à dents choisir, quel dentifrice. Une spéciale bucco-dentaire aujourd'hui, et pour en parler, notre invité ce sera le docteur Christophe Lecard. Il est chirurgien-dentiste et membre de l'UFSBD, l'Union Française pour la Santé Bucco-Dentaire. Ensuite, dans notre chronique, les bobos du quotidien. Nous parlerons aujourd'hui de la varicelle, une maladie de l'enfance en général, qui est un mauvais moment à passer, mais savez-vous que chez l'adulte, elle peut provoquer des complications assez sérieuses. Le docteur Jimmy Mohamed nous expliquera tout ça. Enfin, vers 15h50, nous retrouverons Catherine Blanc et sa chronique sexo. Aujourd'hui, il sera question des grandes différences d'âge en amour.
Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed vous reçoivent sans rendez-vous sur Europe 1.
Tout de suite, pour ouvrir votre magazine santé, c'est le vrai faux, vos questions au 3921 sur le répondeur d'Europe 1. Et on va commencer par la première, c'est la question de Ludovic, 44 ans.
Bonjour Mélanie, bonjour l'équipe. Voilà, je vous appelle pour une petite question. Avec ma femme, on a une interrogation à propos de notre fille de 17 ans qui ces derniers temps est toujours fatiguée. On voulait aller voir un médecin avec elle. Elle refuse, mais nous on pense qu'éventuellement elle aurait pu attraper la mononucléose. Et en plus, on pense qu'elle a un petit copain depuis peu. Donc, est-ce que vous pourrez éventuellement nous éclairer à ce sujet ? Merci beaucoup et bonne journée.
Un papa soucieux, évidemment,
c'est mignon.
Ouais, Jimmy. Alors, un ado tout le temps fatigué, soyons honnêtes, c'est un peu la nature même de l'adolescence parfois, mais est-ce que si c'est inhabituel, comme le décrit Ludovic, en tout cas, est-ce qu'on peut penser peut-être à la mononucléose ? C'est vrai qu'on dit que cette maladie du baiser, ben, la fatigue, ça en fait partie.
Ouais, je pense que ça reste un diagnostic un peu perché de penser que c'était ça, ouais, honnêtement, parce que ça reste assez rare malgré tout, vu que la plupart des enfants l'attrapent quasiment de façon inaperçue. C'est rare de développer des symptômes du mononucléose. Et peut-être qu'elle est fatiguée, peut-être à cause de ce petit copain, mais parce qu'elle passe du temps le soir sur son téléphone. C'est peut-être un ado qui dort pas beaucoup.
C'est
un ado qui est fatigué.
On sait qu'ils
dorment
pas assez, ouais.
Puisqu'ils ont un petit décalage au niveau de leur horloge biologique. Et donc, ils dorment moins, ils peuvent être fatigués. Et puis attention, une fatigue inexpliqué, avant de dire mononucléose, il ne faut pas hésiter à aller voir le médecin généraliste. Elle a le droit d'avoir de l'anémie, si elle a des cycles qui sont abondants, elle peut avoir des problèmes de thyroïde. Donc, je pense qu'il faut être mille raisons avant d'évoquer éventuellement un diagnostic qui fait plaisir à tout le monde, la mononucléose.
La maladie du baiser, c'est plus joli, Jimmy. Est-ce que la mononucléose, d'ailleurs, c'est provoqué par quoi ? Par un virus ? Parce qu'il dit bien, elle a un petit copain, c'est lié, parce qu'on se dit, on peut se le passer de l'un à l'autre.
Exactement.
C'est ça, c'est un virus.
C'est une infection virale à Epstein-Barr virus, donc un nom qui fait peur, mais qui en fait, c'est un virus de la famille du groupe herpès. C'est plutôt fréquent. 90% des adultes sont immunisés. Et comme je vous le disais, ce n'est pas parce que vous rencontrez le virus que vous allez faire une forme sévère. Donc c'est quelque chose qui est très courant, mais qui effectivement peut donner une fatigue résiduelle. Mais au début, vous avez plein d'autres symptômes avant d'avoir cette fatigue.
J'allais vous dire lesquels, c'est parce que la fatigue on connaît, mais il y a quoi d'autre ?
C'est une fièvre qui est prolongée avec une angine blanche pour laquelle parfois les médecins prescrivent à tort des antibiotiques et qui ne va pas marcher. Et justement, au moment où vous mettez des antibiotiques sur une mononucléose, vous faites une éruption cutanée laissant croire que vous avez une allergie. Or, ce n'est qu'une phase tardive de la maladie et on sait que résiduellement, les enfants qui ont eu la mononucléose peuvent être fatigués et c'est une source d'échec scolaire. Certains redoublent à cause de cette mononucléose. Mais avant de dire ça, il faut porter le diagnostic.
Et justement, on fait quoi ? On fait une prise de sang pour être sûr ?
Exactement. On fait une prise de sang, on fait une sérologie EBV qui permet de savoir si vous l'avez eu ou pas et si les anticorps sont anciens ou si c'est quelque chose de récent, puisque comme je vous le disais, 90% des gens vont l'en rencontrer à un moment donné. Donc si on fait tous des sérologies, eh bien on serait quasiment tous immunisés. Donc voilà, il faut plutôt consulter avant de porter ce diagnostic.
Merci beaucoup Jimmy. On va passer à la deuxième question d'auditeur. Cette fois, c'est celle d'un futur papa. Là, c'était un papa, là c'est un futur papa. C'est Paul, on l'écoute.
Bonjour Mélanie, bonjour Jimmy. Ma femme est enceinte et l'autre soir, lors d'un dîner, des amis ont parlé d'un nouvel outil qui permettrait de ne plus avoir à utiliser les forceps ou la ventouse, notamment lors de l'accouchement. Ce serait une sorte d'anneau gonflable, donc j'aimerais savoir si vous pourriez m'en dire un petit peu plus. Merci beaucoup.
C'est une spéciale papa inquiet aujourd'hui. Alors Jimmy, il y a vraiment un outil qui permettrait de plus utiliser donc les forceps, les ventouses si redoutées pour un accouchement peut-être plus en douceur.
Oui, c'est un outil qui est encore en cours d'évaluation. Ça se passe au CHRU de Besançon. Cet outil s'appelle le dispositif Odon. Alors c'est testé à Besançon, mais aussi dans le cadre d'une grande enquête, notamment au Royaume-Uni, et c'est soutenu par l'OMS.
Alors c'est quoi le principe de cet outil ? Il parle d'anneau gonflable,
c'est ça ? Oui, en fait, c'est une sorte de poire de gonflage qui permet de gonfler un anneau et ensuite l'opérateur va pouvoir avoir des poignées.
On met autour de la tête du bébé, je crois.
Exactement.
Hein,
pour faire progresser la tête de l'enfant dans le bassin. Et puis à ce moment-là, ça évite, lorsque c'est passé, d'avoir des traumatismes. Et donc, on dégonfle cet anneau et l'accouchement se passe un peu mieux que lorsqu'on utilise des forceps.
Donc, ça facilite les accouchements un peu difficiles pour les mamans. Mais le gros avantage, il est surtout pour les bébés, je crois.
Oui, alors déjà, quand on dit à une maman qui va avoir les forceps, en général, ça fait peur.
Qui nous abîme ce bébé.
C'est un mot qui fait peur. Et d'ailleurs, il faut faire des cours de préparation à la grossesse pour justement savoir exactement ce que c'est les forceps et pourquoi est-ce qu'on les utilise. En général, c'est quand même dans des situations où on a besoin de le faire. Alors évidemment, ça permettrait surtout d'éviter d'avoir les petites marques que les spatules, les forceps peuvent laisser sur le crâne des enfants.
Ça peut être des égratignures même.
Exactement.
Hein, ouais, c'est impressionnant. Hein.
En règle générale, ça passe tout seul au bout de quelques jours, mais c'est une source d'inquiétude. Donc l'étude, elle avait démarré pendant le confinement. Ils avaient testé d'abord ça sur 42 femmes. Et donc ils espèrent en avoir un peu plus de sang. Et donc, c'est en cours de reprise, affaire à suivre, mais ça pourrait être une solution d'accompagnement pour ces mamans.
Très bien, merci beaucoup Jimmy. Alors si vous aussi, comme Paul qu'on vient d'entendre, voulez nous laisser vos questions au 39-21, 50 centimes d'euros la minute, surtout n'hésitez pas.
Europe 1, sans rendez-vous. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Heureuse de vous retrouver dans Sans Rendez-vous, votre émission santé et bien-être. Nous sommes ensemble comme chaque jour jusqu'à 16h. Alors c'est le moment d'accueillir notre invité pour le dossier du jour. C'est vous, docteur Christophe Lecard, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chirurgien dentiste et membre de l'UFSBD, l'Union pour la santé bucco-dentaire. Je le dis hyper bien parce que ça fait, c'est pas la première fois que vous venez dans ce studio. Maintenant, je me suis bien entraînée. Avec vous aujourd'hui, on va reprendre des basiques, si je puis dire. On est en période de rentrée, donc prendre des bonnes résolutions, c'est bien. Et bien, se brosser les dents, ça fait partie des gestes très importants pour la vie entière. On va en parler. Petite question pour démarrer. Marie, est-ce qu'avec le Covid, c'est surtout à cause du masque que je dis ça, est-ce que on fait des blagues un peu entre copains comme ça sur le masque en disant « Oh là là, ceux qui puent du bec, ils ont dû s'en rendre compte et tout ça. » Mais est-ce que le fait de porter le masque, ça augmente peut-être la mauvaise haleine ou juste ça fait ressurgir ceux qui sentaient déjà de la bouche, quoi, on va dire ?
Eh bien, porter un masque augmente les phénomènes de mauvaise haleine parce qu'on va respirer principalement par la bouche, ce qui va assécher les muqueuses buccales. Et en plus, on va moins bien s'hydrater puisqu'on porte le masque, donc on ne peut pas boire facilement. Et le fait d'avoir une bouche moins hydratée, eh bien, ça va permettre à certaines bactéries qui synthétisent des composés volatiles sulfurés qui sont responsables de la mauvaise haleine de se développer un peu plus. Et donc, on a une sensation de mauvaise haleine qui correspond à la même mauvaise haleine qu'on peut avoir le matin au réveil parce qu'on ronfle la nuit, donc on respire principalement par la bouche. Il suffit simplement de boire un verre d'eau et de manger quelque chose et cette mauvaise haleine disparaît immédiatement.
Jimmy ?
Souvent, quand les Français, on les interroge sur la mauvaise haleine, ils sont persuadés que c'est lié à une maladie en particulier, alors que souvent, ça vient d'un problème tout simplement buccal, en fait.
90% des cas de mauvaise haleine ont une origine bucco-dentaire et principalement un dépôt qui se trouve sur la surface de la langue.
Très bien. Alors, il y a des news qui circulent en ce moment, est-ce qu'elles sont vraies ou pas, sur le masque, justement, et l'impact que ça pourrait avoir sur notre santé dentaire. On a pu lire, notamment sur Internet, que comme on porte le masque, on a moins de salive, que peut-être ça fait plus de caries, ça fait plus de problèmes de gencives. C'est vrai ou faux ?
Non, ce sont des fake news qui sont repris par des sites un peu complotistes, des sites anti-masques. Et donc, il faut effectivement ne pas croire ces sites. Il n'y a aucune incidence bucco-dentaire, si ce n'est ce problème de mauvaise haleine lié à la respiration buccale.
Jimmy ?
Du coup, se brosser les dents, ça commence par acheter une brosse à dents. Est-ce qu'on doit faire cet achat de façon intelligente ? Parce qu'on a l'impression qu'on peut acheter n'importe quelle brosse à dents en fonction de la couleur, de l'esthétisme.
Il y en
a
tellement dans les supermarchés, par exemple.
On va un peu au pifomètre. Mais est-ce qu'il y a une bonne technique pour se gérer une bonne brosse à dents ?
En premier lieu, une brosse à dents doit être une brosse à dents souple. Donc, on utilise donc des poils souples. Donc, c'est un diamètre qui est normé, hein, c'est 20 centièmes. Et donc, c'est vraiment important d'utiliser une brosse à dents souple parce que dans le mouvement de brossage, eh bien, les poils souples vont pouvoir aller nettoyer un petit peu mieux dans les espaces interdentaires.
Est-ce qu'il y a une préférence pour l'achat, donc, que ce soit en parapharmacie ou est-ce qu'au supermarché, on trouve des brosses à dents de qualité acceptable, je dirais ?
Les brosses à dents que l'on trouve en grande surface sont de bonne qualité. Ce qui peut faire la différence, c'est au niveau des brins des poils de la brosse à dents. Dans les brosses à dents de qualité supérieure, eh bien, ces brins, une fois qu'ils ont été coupés, ils sont polis pour ne pas irriter la dent et la gencive lors du brossage.
D'accord. Et vous disiez donc plutôt choisir du poil souple. Il y a quand même, alors peut-être qu'on en trouve moins, vous allez nous dire, mais il y a des brosses à dents. Souvent, les gens aimaient bien prendre des brosses à dents à poils très durs. Ils ont l'impression que ça va laver bien les dents. Pourquoi ça existe si jamais c'est pas bien d'utiliser des brosses à dents à poils durs ?
Alors, on ne doit pas utiliser une brosse à dents à poils durs. Pourquoi elles sont encore sur le marché ? Parce que c'est une demande du consommateur qui a l'impression l'impression de mieux brosser ses dents avec ses brosses à dents à poils durs. On en trouve de moins en moins. On trouve encore des médiums, mais vraiment, il faut privilégier une brosse à dents à poils souples. Ce qui a totalement disparu aussi, ce sont les brosses à dents en poils naturels, donc en poils de sanglier, qui étaient une aberration parce que ces poils naturels sont creux et à l'intérieur de ces poils se développaient des bactéries. Donc c'est pour ça qu'elles ont disparu du marché.
Jimmy ?
Christophe Lecard, j'ai une question existentielle. Est-ce qu'il faut utiliser une brosse à dents électrique ou manuelle ? On a besoin d'entendre la vérité. Parce que souvent, les gens disent non, c'est mieux ou c'est pas bien. Donc quel est le meilleur brossage ?
Si on utilise correctement une brosse à dents manuelle, on peut se garantir un bon brossage. Donc c'est une durée de 2 minutes avec donc une brosse à dents souple. Mais l'intérêt de la brosse à dents électrique, c'est qu'elle va éliminer plus de plaques dentaires pour une même durée qu'une brosse à dents manuelle. Parce que c'est le but du brossage, c'est d'éliminer cette plaque dentaire qui est un enduit mou collant qui se dépose sur la surface des dents. L'autre intérêt de la brosse à dents électrique, c'est qu'elle est équipée d'un minuteur et donc les gens vont aller jusqu'à 2 minutes qui correspond à cette durée idéale du brossage, alors que l'on constate en France qu'avec une brosse à dents manuelle, on est à 43 secondes. Donc l'intérêt du brossage électrique, c'est qu'on a un brossage qui est plus efficace et la durée va être plus longue. Donc il faut privilégier la brosse à dents électrique, mais avec une brosse à dents manuelle, on peut se garantir une bonne santé dentaire.
Très rapidement, si qu'on soit en manuel ou en électrique, ça change tous les combien une brosse à dents ou la tête de la brosse à dents ?
Idéalement, tous les 3 mois, on doit changer sa brosse à dents ou la tête de sa brosse à dents électrique. Donc à chaque saison, une nouvelle brosse. Et si les poils sont ébouriffés, eh bien on change donc sa brosse.
Allez, docteur Lecard, on va faire une petite pause. On se retrouve dans quelques minutes.
Sans rendez-vous,
15h, 16h sur Europe 1.
Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Nous sommes ensemble jusqu'à 16h pour votre émission Santé Bien-être, une émission sans rendez-vous. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Sur notre plateau aujourd'hui, notre invité, c'est vous, docteur Christophe Lecard. Vous êtes chirurgien-dentiste et membre de l'UFSBD, l'Union Française pour la Santé Bucco-Dentaire. Alors, notre sujet du jour, c'est ça aujourd'hui, c'est comment avoir de bonnes dents à la base. Et donc pour ça, il faut déjà bien les laver. Alors certains diront, bon ben ça va, vous n'allez pas nous infantiliser aujourd'hui dans sans rendez-vous. On sait se brosser les dents quand même, mais je crois qu'on a des chiffres et qu'on voit bien que les Français, on n'est pas champion dans le brossage.
Les Français ne sont pas les champions du brossage. Comme on le disait, la durée du brossage est en moyenne de 43 secondes au lieu des 2 minutes. Le nombre de tubes de dentifrice utilisés par Français, qui devrait être de 4 par an, on est à 1,5 et on ne renouvelle pas tous les 3 mois sa brosse à dents.
1,5 par an, c'est tout ?
Donc, vraiment,
nous, on doit faire une utilisation intensive alors chez nous. Mais c'est par personne, c'est
par
ça
personne.
Ah oui, non, peut-être pas. Alors.
Quand même, 1,5 versus 4, on a un peu cracra de la bouche au niveau des Français. Mais est-ce que c'est pareil aussi chez les enfants ? Parce qu'on a l'impression qu'on fait un peu plus attention chez eux et que du coup, peut-être, c'est quoi ? Au fil du temps, on perd ce réflexe, on est moins bon ?
Alors, il y a une amélioration de l'hygiène bucco-dentaire des enfants. Les parents font beaucoup plus attention donc aux dents de leurs enfants. Et progressivement, malheureusement, quand on grandit, on surveille moins le brossage de ses enfants. Et puis, quand ces enfants deviennent des adolescents et des jeunes adultes, eh bien, une partie du brossage passe à l'as. Au lieu de faire 2 fois par jour, ça passe souvent à 1 fois par jour.
À partir de quel âge un enfant doit raisonnablement se laver les dents avec une brosse à dents, je veux dire ?
À partir du moment où une dent est présente en bouche, donc dès l'âge de 6 mois, on doit brosser les dents de son enfant.
Et alors, la brosse à dents vraiment telle quelle qu'on achète pour l'enfant, il y en a à partir de 2-3 ans, c'est ça ? Et là, il faut qu'il apprenne à se les brosser un peu tout seul, si c'est vers cet âge-là ?
Alors, à partir dès l'âge de 6 mois, bien sûr, ce sont les parents qui brossent les dents des enfants avec une brosse à dents qui est totalement adaptée à la taille de la bouche de l'enfant.
On leur prête pas notre brosse à dents, par exemple.
Non,
ça se fait pas.
Vraiment, on utilise. Alors, on ne prête jamais.
De toute façon, c'est intime.
Jamais on ne prête sa brosse à dents et encore plus en ce moment avec l'épidémie Covid. Il faut effectivement isoler même dans votre salle de bain les brosses à dents. C'est-à-dire que une fois qu'on s'est brossé les dents, eh bien on laisse sécher sa brosse à dents tête en haut et non pas on la laisse poser donc à plat avec de l'humidité parce que cela va favoriser le développement des virus et des bactéries. Donc on laisse sécher sa brosse à dents tête en haut et puis surtout une seule brosse dans un verre parce que sinon les bactéries ou les virus présents sur les poils de la brosse vont pouvoir contaminer les autres brosses.
Voilà. Pour l'enfant, donc une brosse à sa taille, à la taille de sa bouche. Donc ça existe, ça pour les enfants, les petites. Quoi.
Ça existe. Et puis l'enfant, progressivement, ça doit devenir une routine. Et donc vers 2 ans, il commence à se brosser les dents tout seul.
Moi, elle le fait, mais elle a 3 ans, elle fait un peu n'importe quoi. Il faut repasser derrière.
Oui,
quand même,
bien sûr. Les parents doivent toujours compléter le brossage de l'enfant. Et idéalement, c'est que les parents se brossent les dents en même temps que leurs enfants pour que ça devienne vraiment cette routine d'hygiène quotidienne.
Jimmy ?
Donc, routine qu'on devrait faire normalement après chaque repas dans un monde parfait ? Je crois que c'est difficilement appliqué ou applicable.
Idéalement, le brossage aujourd'hui, les recommandations, c'est 2 brossages par jour, matin et soir. Ça, on n'interdit pas de se brosser les dents le midi, on peut tout à fait se brosser les dents le midi. Mais pourquoi uniquement un brossage matin et un brossage soir ? Parce que cette plaque dentaire, elle met environ 12 heures à se constituer. Donc ça correspond exactement à l'intervalle entre le brossage du matin et le brossage du soir.
Est-ce que vous avez des astuces pour les enfants quand ils sont un petit peu plus grands ? Moi, je sais qu'il y a, j'en connais certains qu'on envoie dans la salle de bain, puis ils reviennent, on va toucher la brosse à dents, elle est sèche, hein, donc ils ont mis un petit peu d'eau, et hop, comment on est sûr qu'il a bien fait ces 2 minutes ? Est-ce que vous avez des petites astuces pour que les enfants sachent que ça dure la bonne durée ?
Alors, il y a bien sûr le sablier qui est la chose la plus simple donc, pour contrôler donc, la bonne durée du brossage. Mais il y a aussi le temps d'une chanson à la radio parce que c'est environ 2 minutes. Et donc, on peut dire à nos enfants, eh bien, écoute, tu te brosses les dents le temps de la chanson que tu écoutes sur ta radio préférée.
Europe 1, évidemment.
Europe 1, bien sûr. Et sinon, on parlait tout à l'heure des brosses à dents électriques qui sont équipées 2 minuteurs. Et aujourd'hui, vous avez même des brosses à dents électriques connecté avec des jeux pour les enfants, pour qu'ils arrivent à cette durée idéale de brossage.
Juste un dentifrice, c'est compliqué à choisir, parce que là encore une fois, parfois on va un peu au hasard, ou en fonction du packaging, comment on fait ?
Idéalement, un dentifrice doit contenir du fluor, parce que le fluor, c'est ce qui a permis de réduire l'incidence des caries, donc le nombre de caries. Par contre, la dose de fluor, elle doit être adaptée en fonction de l'âge de l'utilisateur. Jusqu'à 6 ans, on utilise un dentifrice à 1000 ppm de fluor. PPM, c'est particules par million, c'est clairement indiqué sur les tubes. Et au-delà de 6 ans, on peut utiliser un dentifrice adulte qui a une concentration d'environ 1450 ppm. Dans ces dentifrices adultes, attention parce que les enfants, ils n'aiment pas trop le goût mentholé. Donc, on trouve des dentifrices à 1400 ppm avec des goûts fraises, fruits rouges, qui sont préférés par les enfants.
Est-ce que c'est très important le dentifrice ou est-ce qu'on ne pourrait pas s'en passer, servir d'un savon, n'importe lequel, un savon de Marseille
Le dentifrice, il n'est pas 100% indispensable parce que c'est l'action mécanique de la brosse qui va permettre d'éliminer cette plaque dentaire. Mais il facilite l'élimination. C'est comme quand vous lavez les mains. Vous pouvez très bien vous laver les mains sans savon, mais si vous mettez du savon, c'est plus facile. Et bien, c'est la même chose avec le dentifrice. Il y a à l'intérieur des particules de silice qui permettent d'éliminer plus facilement cette plaque dentaire et aussi des agents saponifiants, des savons qui permettent donc de faciliter toujours cette élimination.
Docteur Locard, on va faire une courte pause. On continue bien sûr cet entretien dans quelques minutes.
Europe 1, Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
De retour sur Europe 1 avec notre invité, c'est vous, docteur Christophe Locard. Vous êtes chirurgien dentiste et membre de l'UFSBD, l'Union française pour la santé bucco-dentaire. Alors on va passer aux travaux pratiques à présent. Le brossage des dents, techniquement, on s'y prend comment ? Je crois que ce n'est pas le même geste d'ailleurs pour les enfants, enfin jusqu'à un certain âge, vous allez nous dire, et pour les adultes. On va commencer par les petits, en gros de jusqu'à 6 ans, quoi, c'est ça ?
Le brossage est un petit peu différent parce que la dextérité manuelle des enfants s'acquiert progressivement. Donc au départ, les enfants, on va leur demander simplement de faire des petits mouvements de va-et-vient sur la surface supérieure des dents. Et donc on va leur demander surtout de suivre un parcours pour ne pas oublier une seule surface dentaire. Donc on va par exemple démarrer en haut à droite, ensuite on va faire en haut à gauche, en bas à gauche et pour finir
va-et-vient dans quel sens ? Vertical, horizontal ?
Et donc ce petit mouvement de va-et-vient, il se fait vraiment sur la face supérieure des dents. Et on va demander à l'enfant d'avancer progressivement sa brosse à dents et donc de compter jusqu'à 10. Et une fois qu'il est arrivé à 10, il déplace un petit peu sa brosse à dents. Et progressivement, on va passer au brossage adulte, qui est un brossage qui est différent, qui est un mouvement de poignet, qui est un mouvement de rouleau qui va de la gencive vers la dent. On doit mettre sa brosse à dents à environ 45 degrés sur la gencive et on va faire ce mouvement qui va du rose vers le blanc. Toujours en suivant un parcours pour ne pas oublier une seule surface dentaire. Et une fois qu'on a fini son parcours, eh bien on va faire des petits mouvements de va-et-vient sur la surface supérieure des dents, comme pour les enfants.
Bon, Jimmy, vous avez tout compris, c'est bon, c'est comme ça que vous faites ?
Bah évidemment, vous vous doutez de mon hygiène bucco-dentaire.
On ne voit rien en ce moment avec le masque, alors allez-y.
Donc tout va bien. À partir de quel âge on peut laisser un enfant en autonomie ? Alors, on va dire indirect, c'est-à-dire on va le superviser jusqu'à, je sais pas, 6 ans, mais est-ce qu'il peut se brosser les dents seul, je sais pas, à partir de 3 ans ? ou le geste est trop imprécis?
On me dit une certaine Céline que jusqu'à 12 ans au Danemark, on conseille aux parents de brosser les dents de leurs enfants. Je trouve ça un petit peu abusé quand même. 12 ans, moi, il n'accepterait pas. 11 ans que je...
Les gens ne voudraient pas. Ils ont un peu la flemme, les parents.
Oui, je pense que les parents ne voudraient pas, mais ça serait certainement l'idéal. Mais on doit surveiller environ jusqu'à 6-9 ans le brossage de son enfant et éventuellement le compléter. Et surtout, surveiller qu'il se brosse bien les dents.
Jimmy ?
Et du coup, en termes de quantité de dentifrice, parce que souvent, c'est compliqué, on a peur de ne pas en mettre assez, alors que peut-être on n'est pas obligé d'en mettre toute une tartine. Surtout, les enfants, ils aiment bien remplir la brosse à dents de dentifrice.
La quantité de dentifrice, elle varie aussi en fonction de l'âge. Donc, pour les nouveau-nés, pour les 6 mois, c'est juste une trace de dentifrice. C'est-à-dire qu'on tapote légèrement les poils sur l'entrée du tube et puis on passe progressivement à la taille d'un grain de riz et ensuite la taille d'un petit pois. Alors, c'est quoi un petit pois? Et un petit pois, c'est la même chose pour les adultes. Ça correspond à la largeur d'une brosse et non pas la longueur d'une brosse. Alors, les fabricants de dentifrice ne vont pas m'aimer parce que, bien sûr, on va consommer un petit peu moins de dentifrice. Mais c'est vraiment la quantité idéale parce que ce que l'on fait et qui n'est pas une bonne idée, on ne devrait pas se rincer après le brossage.
J'allais vous dire, moi, elle avale l'eau, la petite, quand on lui donne un verre d'eau pour rincer, systématiquement, elle boit. Oui. Est-ce que c'est grave de boire du dentifrice
non,
avec de l'eau
ce,
comme ça ?
Ce n'est pas grave. L'enfant, va, de toute façon, ne sait pas déglutir correctement jusqu'à l'âge de 6 ans, donc va avaler une partie du dentifrice, mais il n'y a aucun risque.
Mais vous dites, attendez, il ne faudrait pas se rincer la bouche? Parce que c'est vrai que moi, j'oblige mes enfants le soir. Non, rince-toi la bouche une fois que tu t'es brossé les dents. Il ne faudrait pas?
Il faudrait simplement recracher le dentifrice. C'est pour ça qu'il ne faut pas mettre une quantité trop importante. Parce que ce que l'on cherche, c'est à conserver les molécules actives du dentifrice au contact avec les dents et en particulier le fluor. Ce qui est important dans le fluor, c'est l'apport topique, c'est-à-dire le contact direct du fluor sur la surface de l'émail. Donc c'est pour ça qu'il faudrait conserver un peu de dentifrice en bouche.
Mais on a appris un truc, c'est pas la peine de se rincer les dents et après le dentifrice. Est-ce que le fil dentaire, c'est un plus, c'est important ou pas chez les adultes par exemple, et les brossettes aussi, est-ce qu'il faut privilégier l'utilisation de ces outils?
Alors le fil et les brossettes sont vraiment importants parce qu'il faut nettoyer les espaces entre les dents. Et les espaces interdentaires ne peuvent être nettoyés correctement qu'avec du fil ou des brossettes. Parce que même avec une brosse à dents souple et en faisant le bon geste, eh bien on ne va pas pouvoir bien nettoyer ces zones situées entre les dents. Donc le fil pour les espaces très serrés, les brossettes quand on a des espaces qui sont un petit peu plus larges. Les patients préfèrent généralement la brossette parce que c'est beaucoup plus simple d'utilisation. Mmh. Et la brossette, elle doit être adaptée aussi en fonction de la taille de l'espace entre les dents. Parce que cette brossette, elle doit répondre à trois critères, les trois F. C'est-à-dire qu'elle ne doit pas forcer dans l'espace, elle ne doit pas flotter dans l'espace et elle doit frotter pour brosser cet espace interdentaire.
Les trois F, on retiendra. Jimmy ?
Bain de bouche, quel est l'intérêt pour ou contre ?
On distingue deux types de bains de bouche, les thérapeutiques que nous prescrivons après une intervention, qui sont à usage pour une durée limitée.
Et ce qu'on trouve en supermarché, c'est...
Et sinon, il y a les bains de bouche à usage quotidien. C'est un complément du brossage, ça ne remplacera jamais un brossage, ça c'est vraiment important. Leur intérêt, c'est qu'ils vont permettre de limiter l'adhésion de la plaque dentaire sur la surface des dents. Et en plus, ils vont amener du fluor complémentaire.
Pour terminer, est-ce qu'il faut se brosser la langue? Si oui, comment et avec quoi d'ailleurs?
Le brossage de la langue, il ne doit pas être systématique. Il est recommandé uniquement pour les personnes qui souffrent d'halitose, de mauvaise haleine, pour éliminer le dépôt qui se trouve sur la surface de la langue.
Écoutez bien ça, écoutez bien.
Et donc, ça se fait avec une brosse à langue qui ressemble à un racleur et ça se fait de l'arrière de la langue vers l'avant. Surtout, on n'utilise pas sa brosse à dents parce qu'avec les poils de la brosse, on peut créer des micro-lésions sur la surface de la langue et dans ces micro-lésions vont s'engouffrer les bactéries responsables de la mauvaise haleine.
Merci beaucoup, docteur Lecard, d'avoir accepté de répondre à nos questions, de nous avoir redonné, c'est toujours utile, les bonnes règles en matière d'hygiène bucco-dentaire. Merci encore.
Europe 1. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Votre émission santé, c'est sans rendez-vous, c'est tous les jours de 15h à 16h. Alors il est temps maintenant de passer à notre séquence Les bobos du quotidien. Aujourd'hui, nous allons vous parler de la varicelle, cette maladie bénigne la plupart du temps quand elle touche les enfants. Mais savez-vous comment ça se soigne? Enfin, comment ça se soulage en tout cas la varicelle? Quels sont les bons soins et ceux à éviter? Savez-vous que chez l'adulte, ça peut parfois se compliquer? Benjamin Lévesque a été vous interroger sur le sujet. On écoute son micro-trottoir.
C'est quelque chose qui gratte fort. trop fort.
La varicelle, des boutons qui grattent un peu comme de l'urticaire.
Ah, la varicelle, c'est quand on a plein de petits boutons qui grattent et c'est très très contagieux. Donc quand t'es un enfant ou tu es même adulte, tu as la varicelle, tu ne vas pas voir tes copains. Après, ça ne s'attrape qu'une fois dans la vie. J'ai eu des boutons partout, comme tout le monde. Mais par contre, ça peut partir très loin quand t'es vieux, ça peut devenir assez vénère.
90% de la population a un petit trou entre les deux yeux au-dessus du nez qui est lié à la varicelle. Moi, je l'ai, j'ai rencontré plein de gens qui l'avaient.
Principalement les enfants ont, en général. Tu restes plutôt isolé, t'évites les enfants, tu les laisses pas dans leur classe, tu les isoles pour éviter qu'ils transmettent la varicelle.
C'est super contagieux, la varicelle. C'est pour ça que les enfants qui ont la varicelle, ils sont forcés de ne pas aller à l'école.
Ouais, ça part tout seul. Tu dois y avoir une crème apaisante, je pense, ouais.
On peut traiter les petits boutons, je crois, avec, comment ça s'appelle, du chloroforme, il me semble, c'est rouge. Et les mamans nous le mettent avec le petit coton-tige sur les boutons pour éviter de gratter et que ça fasse mal.
Moi, je mettais des gants pour pas gratter avec mes ongles. Bah écoute, mes parents sont bizarres, c'est ce que je te dise.
Il n'y a pas d'antibiotiques, il y aurait peut-être un vaccin. Non, je suis pas sûre. Contre la rougeole, oui, mais pas contre la varicelle.
Alors Jimmy, c'est pas du chloroforme qu'on met sur les boutons, on va y revenir. On va juste reprendre du dé plus rapidement. La varicelle, d'abord, c'est un virus.
Hein, oui, une infection virale, varicelle zona ou VZV, qui appartient au groupe herpès lui aussi.
D'accord. Est-ce que donc ça touche principalement, mais dis donc, je vais arriver, les enfants, les petits enfants même. Comment on sait que c'est ça, les petits boutons? Alors il y en a qui les ont décrits un peu de l'urticaire, tout ça. Non, c'est pas tout à fait ça. Ça ressemble à quoi?
Alors ça commence par parfois une petite période de température, 38-38,5, une éruption cutanée qui commence souvent au niveau du cou, avec des boutons qui vont évoluer chacun pour leur propre compte. Et vous allez avoir des petites papules, puis ensuite des vésicules, donc une petite.
C'est un peu gonflé, avec comme s'il y avait du liquide à l'intérieur. Hein,
ça va se rompre. Vous allez avoir des croûtes. Il y en a partout, ça gratte, ça démange, il y en a dans le cuir chevelu, mais ça respecte toujours la paume des mains et la plante des pieds. Vous n'avez pas de bouton à cet endroit-là, sinon vous avez attrapé autre chose.
Il y en a un petit peu partout. D'ailleurs, docteur Lecar, vous êtes chirurgien dentiste, vous êtes resté avec nous encore, et vous vouliez nous dire un truc étonnant, vous me faisiez signe, la varicelle, on peut la diagnostiquer dans la bouche.
On peut aussi la diagnostiquer dans la bouche parce que les éruptions peuvent démarrer par la bouche où on retrouve exactement ces macules, donc ce petit halo rouge avec cette vésicule. Donc ça peut apparaître, ces éruptions, avant d'être au niveau de la peau.
Ah, donc parfois le dentiste fait le diagnostic. Alors Jimmy, comment on la traite, la varicelle, et surtout qu'est-ce qu'on évite, hein? Parce que je crois qu'il y a des choses
pas,
très
en fait,
importantes.
On accompagne l'enfant, on lui donne du paracétamol si jamais il y a de la fièvre. Parfois on leur donne des antihistaminiques pour éviter qu'il se gratte alors
contre
que
les allergies.
Ça ne marche pas trop. On désinfecte les boutons qui sont un peu suintants parce qu'ils peuvent surinfecter. On évite les bains prolongés. Il n'y a pas d'éviction à proprement parler, la collectivité. Et puis surtout, on n'oublie pas de couper les ongles courts parce que souvent l'enfant aura tendance à se gratter. Source de surinfection cutanée qu'il faudra traiter avec des antibiotiques
en
parfois.
En revanche, jamais d'ibuprofène en cas de varicelle.
Jamais d'ibuprofène. D'une façon générale, on ne donne pas d'ibuprofène dans une infection virale. Mais là encore plus, ça peut entraîner un syndrome grave qu'on appelle le syndrome de Reye, qui aboutit avec des complications neurologiques, hépatiques, et qui peut conduire au décès. Donc jamais d'anti-inflammatoire. D'une façon générale, quand il y a des boutons.
D'accord, donc jamais d'anti-inflammatoire. Et chez les adultes, par contre, la varicelle, donc ça peut être très grave, je crois. Rapidement, dites-nous quelles sont les complications, mais surtout, si on n'a pas eu la varicelle, il y a un vaccin pour les adultes. Hein.
Varicelle de l'adulte sévère, elle entraîne aussi des pneumonies, des surinfections bactériennes. Un vaccin est possible à partir de l'âge de 12 ans. Ce qui veut donc dire que si votre enfant a eu la varicelle, que vous ne l'avez pas eu, vous pouvez vous faire vacciner en urgence dans les 3 jours. On vous fait 2 doses et vous êtes tranquille. La varicelle à l'âge adulte est très très mal tolérée, donc je vous recommande fortement d'anticiper et d'éventuellement vous faire vacciner en discutant évidemment avec votre médecin traitant.
Merci beaucoup Jimmy pour cet éclairage.
Europe 1, Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
La santé, le bien-être et la sexo, c'est sur Europe 1. Nous sommes avec vous depuis 15h avec le docteur Jimmy Mohamed qui a les oreilles grandes ouvertes pour cette chronique qu'il adore évidemment.
Exactement, mais pas voilà. Que les oreilles. Mais
bien sûr, voilà. Alors Catherine. Catherine Blanc, vous êtes sexologue et psychanalyste à Paris. Aujourd'hui, on va parler d'amour et de différence d'âge, un grand sujet. D'ailleurs, à partir de quand on parle de grandes différences d'âge, de différence d'âge? 5 ans, c'est quand même pas la même chose que 20 ans d'écart, on est d'accord?
Oui, en général, c'est quand il y a une génération, c'est-à-dire que quand la personne pourrait être le parent de l'autre, donc où on a 10 ans, c'est pas...
Là où ça fait parler le plus, ça fait jaser, on
voilà,
va dire.
Voilà, ça commence à jaser dès qu'il y a une question de génération.
20 ans, quoi, 18 ans
voilà,
d'écart.
Voilà, 18 ans d'écart, Là, on se dit, oulala, elle pourrait être ma fille ou il pourrait être mon fils. Donc là, effectivement, dans l'esprit des gens, il y a quelque chose qui flirte avec l'idée incestuelle et du coup qui inquiète, inévitablement.
Et puis, est-ce que la libido n'est pas forcément aussi différente? Je ne sais pas, quand on a 20 ans d'écart, quand on a 40 ans, ce n'est pas la même chose que lorsqu'on a 20 ans? Ou est-ce que ça, finalement, on arrive à se mettre quasiment sur le même rythme vu qu'on est ensemble?
En fait, le désir sexuel est un élan de vie qui nous poursuit jusqu'à la fin de nos jours. Alors évidemment,
on m'a dit après 50 ans, c'est difficile. Hein. On m'a prévenu ce matin. Profite de tes dernières années.
Qui vous a prévenu
ce matin? Quelqu'un m'a dit, écoute, je te préviens, après 40 ans, c'est très dur. Et 50 ans, là, tout d'un coup,
voilà, c'est dur.
Ah, mais t'es vache parce que vous en êtes très loin. Donc c'est quoi cet oiseau de mauvais augure,
hein. Bon, ne parlons pas de Jimmy, on s'en fiche en réalité. Alors, Catherine.
Donc n'ayez pas d'inquiétude. Le désir trouve toujours matière à expression quand deux personnes sont très fortement attirées. Et si elles ne se sont pas arrêtées à leur différence d'âge, c'est pour dire combien leur désir est actif.
Donc même malgré la grande différence d'âge, ça peut durer toute la vie.
Alors oui, mais simplement, il y a une vie qui va être un peu plus courte pour l'un que pour l'autre. Et puis, il y a un temps où, effectivement, il peut y avoir des désordres parce que celui qui était tout jeune quand l'autre était déjà mature, évidemment, va se retrouver avec des tas d'élan dans sa vie. Les 20 ans, les 30 ans, les 40 ans, les 50 ans sont des moments où il y a des choses différentes qui se questionnent différemment, où on pose la question de la parentalité, on pose la question de l'inscription dans la société, et puis plus tard, de moi et mon désir personnel. Quel que soit, voilà, ces tranches que nous traversons. Or, l'autre n'est pas dans le même rythme et puis n'est pas dans le même accueil de la société, le même regard sur lui-même en fonction du regard de la société sur lui.
Qu'est-ce qui fait qu'un homme de 50 ans pourrait être attiré par une jeune femme de 30 ans? Est-ce que c'est une histoire?
Moi, je sais. Mais...
Non, mais d'immaturité, de dire que j'ai besoin de retrouver une jeunesse, oui, et que je ne suis même plus en phase avec les femmes de mon âge. Est-ce que ce n'est pas quand même un peu un truc d'enfant, de gamin,
On pourrait le dire au même titre que les jeunes femmes sont très attirées par des hommes plus âgés qu'elles, pour une histoire de maturité sans doute aussi. Donc je pense qu'effectivement, il y a de l'envie de vivre, il y a parfois de la frustration avec des femmes du même âge qui se sont installées, des épouses qui se sont installées dans une relation plutôt amicale plutôt que sexuelle, et trouver dans la jeunesse qui les idéalise, évidemment. Vous pensez bien qu'une jeune femme voit dans un homme mature, un Pygmalion, elle voit un homme qui est puissant ô combien, puisqu'il est pas
forcément
que puissant
ça qu'une jeune femme cherche quand elle prend un homme plus, qu'elle sort avec un homme plus âgé. Ça ne peut pas être juste parce qu'elle tombe amoureuse de cet homme et puis il n'y a pas tous ces rats. Enfin, c'est toujours aussi compliqué dans la tête en réalité, ou ça peut être juste simple, ils s'en tombent amoureux et puis c'est tout?
Alors ça, j'adore votre question, Mélanie, parce que l'amour est une chose compliquée. On ne tombe pas simplement amoureux, on tombe amoureux d'une histoire, on tombe amoureux de ce qu'évoque l'autre dans notre fantasme, dans notre imaginaire. Donc évidemment que si je tombe amoureuse d'un homme qui est tout en muscles, j'y vois sa virilité, mais je vois aussi dans un homme abouti professionnellement sa virilité, quand bien même il aurait moins de muscles et moins de cheveux sur la tête. Donc en réalité, c'est évidemment que nous cherchons la puissance dans l'autre, la puissance de vie, et c'est vrai de la jeune femme pour l'homme plus mature, mais c'est aussi vrai pour le jeune homme qui voit la femme aboutie, la femme libérée dans une femme plus âgée que lui.
Dernière petite question, Jimmy.
Oui, parce que quand je vois, par exemple, une jeune femme de 20 ans qui serait intéressée par un homme de 50 ans, 50 ans, on a des problèmes de prostate, on a moins de cheveux.
Mais arrêtez de faire vos
fréquentations. Vous avez 50 ans, je crois. Arrêtez
vos fréquentations. Mais à 50 ans, on va très bien. On peut aller mal, mais on peut aussi aller mal à 20 ans, je vous assure.
Oui, mais quand même, pourquoi on voit que le bon côté? Pourquoi est-ce qu'on idéalise la personne plus âgée alors qu'en réalité, elle a peut-être même tout autant ou plus de défauts que une personne du même âge?
Bien sûr, je crois. Et pourquoi on voit dans le jeune homme de 20 ans quelqu'un qui aura toutes les possibilités du monde alors qu'il ne vient que de naître à la vie de l'adulte? Donc, en fait, nous avons plein de projections qui sont évidemment subjectives, et vous avez raison, il y a plein d'inadéquations dans ces différences d'âge qu'on ne manque pas de souffrir à un moment ou à un autre, bien évidemment.
Merci beaucoup, Catherine, pour tous vos conseils, comme toujours précieux. Voilà, tout de suite, c'est Mathieu Noël et Stéphane Bern avec Historiquement Vôtre. Bonjour tous les deux.
Bonjour Mélanie, vous restez avec nous. Historiquement Vôtre arrive, Stéphane, avec comme chaque jour, trois personnages qui ont un point commun.
Oui, ils ont dit non et ils ont eu raison. Victor Hugo, non à la peine de mort.
Ah oui.
Rosa Parks, non à la ségrégation raciale. Et alors vous avez choisi plus contemporain, Diams.
Bah oui, elle a pas dit non, elle a dit non. Non. Génération non, non.
Merci messieurs, je vous souhaite une belle émission comme toujours. Et vous qui nous écoutez, restez sur Europe 1.